sur nos...
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappée pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur ait pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Il vous fallait du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant.
Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux habits et ses pomponnés pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée, et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisé se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisé se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête. Tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie, le cœur en fête, fête, dans tes bras je veux danser. Gentil petit cordonnier.
Paris se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ses maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes, à la ville comme à la Seine. Paris s'habille de poèmes. Paris qui s'écoute chanter s'émerveille toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palice dirait que chaque année il a un an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame, qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mis en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre, a gardé sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout, et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris, qui adore les chansons, fait chanter tous ses accordéons.
Antenne, antenne.
Antenne, antenne, me dit Ariel. Eh bien, bonjour à vous. C'est Laurent au micro, comme tous les jeudis, les deuxièmes jeudis de chaque mois sur Radio Libertaire, sur l'émission Faites-nous des chansons, créée il y a un bon quart de siècle par Marlène et qui nous a, à nous trois, Pascal, Nathalie et Claude, eh bien, passer le relais pour que cette émission continue d'exister. Oh, à la technique, vous le savez, j'en parle tous les mois, bien entendu, c'est Ariel. Et Ariel, que je vais remercier immédiatement, parce qu'au mois d'août, déjà, on parlait de plein de choses sur la chanson. Et Ariel me dit, mais pourquoi on ne ferait pas une émission sur Francis Lemarque? Mais je lui ai dit, mais Ariel, c'est une très très bonne idée, je te remercie. Et fin août, j'avais déjà Romain Didier au téléphone, j'avais le rédacteur en chef Raoul Belaïche, que je remercie infiniment, au téléphone. Je crois que c'est lui qui m'a donné le téléphone de Stéphane Corbe, puis Michel Corbe, et nous avons l'un des deux fils Francis Lemarque. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Bonjour à toi, Michel.
Bonjour, Laurent.
On va se dire tu. Oui. On se disait vous tout à l'heure, avec cérémonie, et là on va se dire tu. Il y a deux fils, hein, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Voilà.
Et j'ai une sœur aussi.
Ah ben voilà.
Voilà, qui s'appelle Danielle.
Danielle, eh ben on la salue.
Voilà.
Elle nous écoute peut-être en...
Peut-être.
Eh ben elle nous écoutera en podcast.
Hein. Exactement.
Elle aura un an pour nous écouter. Tout va bien. Michel Corbe, effectivement, on a discuté beaucoup avec Ariel, et je me suis dit, mais c'est vrai. Alors, je vais raconter tout de suite quelque chose. J'étais en lien depuis très très longtemps avec quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est Hervé Trinquier. Hervé Trinquier, le TLP des Jazzets, et en 1988, il m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, le TLP ne serait pas un music hall si nous n'avions pas programmé Francis Lemarque. Et il l'a dit avec beaucoup d'affection, puisque le TLP des Jazzets était en train de remplacer Bobino, avec Moustaki, Monique Morelli, Henri Tachant, avec une sublime programmation, dont Francis Lemarque. Voilà, parenthèse fermée. Et nous avons donc une programmation. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Michel Corbe, alors j'appelle le nom, hein, c'est K-O-R-B. Michel, donc, qui chante et surtout... Surtout, je l'ai appris en préparant cette émission, j'ai appris beaucoup, qui est compositeur. Alors Michel, nous avons écouté tout à l'heure, juste après l'indicatif, un tube, on peut dire, un petit peu. Mm-hmm. Il n'aurait pas aimé le nom, hein, Francis mm-hmm. Lemarque. Mais bon, nous avons le fils de Francis Lemarque, nous avons deux heures autour de Francis Lemarque et de Michel Corbe. Balle, petit balle.
Non. On a commencé avec le petit cordonnier.
Ah, le petit cordonnier.
Voilà,
oui,
le petit cordonnier.
Oui, oui, parce qu'on a fait une petite on a un peu interverti le disque. Le petit cordonnier.
Le petit cordonnier, oui. Qui est une chanson qui a été écrite avec un éditeur qui s'appelle Rudy Réville. Donc Rudy Réville a écrit la musique et Francis a écrit les paroles.
Ils ont fait plusieurs chansons ensemble.
Hein. Ils en ont fait deux ou trois. Ils ont fait Le petit cordonnier et une autre là dont je n'ai pas le titre tout de suite, mais en tout cas voilà, ils ont travaillé ensemble un certain temps et voilà. Et ensuite on a entendu donc Paris se regarde, qui est une chanson de Francis également, que j'ai chantée sur un projet que j'ai réalisé en 2019.
Oui, c'est récent. Alors, depuis combien de temps Michel Corbe, mon invité, se produit-il sur une scène?
Ben depuis 2019.
Ah oui, c'est quand même récent.
Ouais,
ouais, ouais, quand même.
Alors,
ouais.
En fait, moi, je peux raconter vite fait ce projet.
Vite fait, on prend le temps.
En fait, ce projet, c'était au départ un projet qui réunissait un artiste, une chanson. Donc, on était censé avoir une douzaine d'artistes sur le projet. Et puis le projet, malheureusement, n'a pas été suivi par les grandes maisons de disques. Et donc je me suis retrouvé avec ce projet sur les bras. Et mon ami Roland Romanelli, qui est sur l'album, me dit, bah, écoute, la seule façon pour toi que ce projet existe, c'est que tu le défendes toi. Et donc je me suis mis dans la peau d'un chanteur. Et je suis monté sur scène, ce que je n'avais jamais fait avant, en fait. J'étais monté sur scène en tant qu'instrumentiste, en tant que pianiste, mais pas en tant que chanteur. Et donc voilà. Et donc j'ai monté ce projet. J'ai autoproduit un album avec l'aide de Didier Pascalis à cette production. Et en 2019, j'ai sorti ce CD et a débuté une série de concerts que je continue d'ailleurs un petit peu au gré des demandes. on va dire.
Il y avait une demande récente, là, c'était à Boulogne-Billancourt.
Voilà, j'ai joué à Boulogne, oui.
J'ai failli venir, je voulais venir, j'avais prévu. Et alors, comment ça s'est passé? Il y a eu un bel accueil, je suppose.
Bah, toujours très bien.
Bah oui.
En fait, il faut dire que je suis entouré de musiciens extraordinaires, parce que j'ai d'abord Roman Ely. Il était malheureusement pas là à Boulogne, mais en fait, on va dire que le projet en fait, s'est monté avec Roman Ely. Ensuite, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Filleul, qui est batteur. Un contrebassiste qui s'appelle François Bernat. Un violoniste à l'époque qui s'appelait Mathieu Lévy, qui a été remplacé par Bastien Ribaud. Julien Descaux à la guitare et Romain Villemain également à la guitare. Voilà. Donc j'avais toute une brochette de musiciens. C'est un projet jazz manouche. Et il faut le savoir, le jazz manouche, c'est un vivier de musiciens extraordinaires. Donc j'ai toujours un tas de musiciens qui viennent se greffer au projet. Et donc c'est une aventure musicale avant tout, formidable. Et moi, ça me permet, si vous voulez, on se tutoie.
On va se tutoyer, c'est mieux. Bien sûr.
Moi, ça me permet finalement de raconter mon histoire à travers celle de mon père. Et voilà, donc c'est une heure et demie de spectacle qui se passe très bien, généralement.
C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence cette émission avec la voix, bien sûr, de Francis Lemarque, à qui nous rendons hommage, mais aussi tout de suite suivi par le fils Michel Korb. Alors, comme je le disais, le père, le fils, mais le Saint-Esprit, on va attendre beaucoup plus tard. Alors, Ariel...
Pas les routiers
Les routiers, non, on va passer... mon temps à Paris, est-ce que tu as sur YouTube?
J'ai une petite anecdote peut-être
oui.
À raconter.
Alors on va voir si Ariel nous trouve, parce que là on est vraiment en direct, hein. On a modifié beaucoup de choses, on est toujours un petit peu obligé. C'est bon Ariel, hein, c'est prêt. Alors avant d'écouter mon temps, on va écouter Michel qui nous raconte cette anecdote. Alors avant cette anecdote, une petite question. Est-ce que Roland Romanelli pourrait avoir été le Canetti pour Francis Lemarque, le déclic pour chanter sur scène?
Est-ce que Roland Romanelli aurait pu être le Canetti?
Oui, pour toi.
Ah, pour moi?
Oui, c'est ton Canetti.
Ah bah,
c'est lui qui t'a dit, tu montes sur scène, tu le défends.
Oui.
C'est ce qu'a fait Canetti quand il a vu.
C'est vrai.
Lemarque était tranquille, Lemarque il allait dans tous les théâtres pour écouter les chanteurs qui chantaient ses chansons.
C'est vrai.
Mais quand il a eu Canetti en face de lui, on peut supposer historiquement qu'il a été favorablement encouragé et influencé pour poser le pied sur une scène, comme pour toi.
Écoute,
est-ce que c'est le parallèle Romanelli-Canetti?
Ça peut.
Oui. Tant que tu ne me contredis pas en direct, non, ça va, tu peux le faire après. Hein.
Moi, j'ai toujours dit que Roland Romanelli, il était mon Pygmalion et j'étais son Pygmalui.
C'est excellent. Voilà. Eh bien voilà, tu as répondu à ma question. Et maintenant, on va parler donc de cette anecdote par rapport à mon temps. On a beaucoup de choses à dire à mon temps. Et mon invité aujourd'hui, 13 mars 2025, c'est Michel Korb. Et nous t'écoutons à propos de mon temps, parce que cette rencontre a été quand même extraordinaire pour Francis.
Alors, d'abord, la rencontre grâce à Jacques Prévert. Donc, c'est Francis écrivait des chansons un petit peu dans son coin. Il avait secrètement... une admiration sans borne pour Yves Montand, qui était grand, qui était svelte, mon père était petit, était un petit peu enveloppé. Donc voilà, il y avait ce contraste qui était là. Et Francis était ami avec Prévert, on en reparlera après. Donc il parle à Prévert de ses chansons. Et Prévert lui dit, écoute, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai un ami, éventuellement, qui pourra peut-être t'aider. Et cet ami, c'était Yves Montand. Donc, voilà. Donc, ils se sont rencontrés comme ça. Et Montand est tout de suite tombé amoureux des chansons de Francis. Et donc, l'anecdote sur la chanson de À Paris est la suivante. Francis avait l'habitude d'aller chez Montand pour lui jouer ses chansons. Et un jour, donc Francis arrive avec sa chanson à Paris, et Montand était mal luné. Donc il écoute la chanson, et il lui dit « Oh là là, ta chanson elle monte haut, elle descend bas, c'est compliqué pour un chanteur. » Et puis elle est pas carrée ta chanson, elle tourne sur 15 mesures, normalement une chanson ça tourne sur des mesures paires. Et puis encore un texte sur Paris, Montand refuse la chanson. Donc mon père repart avec la chanson sous le bras, et va frapper à la porte d'Edith Piaf, qui l'accueille, qui écoute la chanson, qui l'accepte tout de suite, la prend dans son répertoire. Elle ne voulait pas l'enregistrer tout de suite parce qu'elle avait une chanson qui s'appelait Les Amants de Paris dans son répertoire et elle ne voulait pas avoir de chansons sur Paris, mais elle lui dit, je l'enregistrerai après. Donc voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Montand entend parler de cette histoire, rappelle mon père et lui dit, tu peux me rejouer la chanson que tu m'as jouée il y a 3 semaines. Donc mon père lui rejoue et là Montand, avec toute sa bonne foi, lui dit, mais dis donc, ta chanson, elle monte haut, elle descend bas, c'est bien pour un artiste, ça. C'est formidable. Et puis elle tourne pas carré, c'est intéressant ça, c'est original. Et puis quel beau texte sur Paris. Et Montand lui dit, je pense que j'aurais dû la prendre ta chanson. Et Francis lui dit, bah oui, mais la chanson est déjà prise. Ah bon? Dit Montand, et qui l'a prise? Edith Piaf. Donc Montand décroche son téléphone, on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés, mais à la fin de la conversation, Montand avait récupéré la chanson. Et c'est lui qui va la chanter pour la première fois sur scène. Voilà.
Ça valait le coup, hein, parce que c'est une anecdote que je n'ai jamais lue nulle part. Est-ce qu'elle est dans ce fameux livre?
Peut-être, oui.
Peut-être,
oui,
dans ce... Oui, alors, on va citer quand même ce livre, parce que il y a peut-être des personnes qui pourraient le trouver sur Amazon ou pas, des gens qui peuvent s'en séparer, ça m'étonnerait d'ailleurs. Ça s'appelle Francis Lemarque, J'ai la mémoire qui chante. Déjà, c'est un très beau titre. Aux Presses de la Cité, c'est paru en 1992, février 92, avec plus de... presque 500, oui, 449 pages, on va dire, sur la vie et de Francis Lemarque. Donc ce livre a existé, on attend une réédition, on ne sait jamais, on peut rêver, on peut croiser les doigts, hein, Michel.
On peut rêver.
Bon, alors, ça y est.
Chez Benjamin Legrand.
Eh bien, Benjamin Legrand est en ligne. Benjamin, cher Benjamin, bonjour à toi.
Chers amis, bonjour.
Oui, Benjamin. Alors,
oh là là.
Eh bien, ça fait...
Quel plaisir de se retrouver, de parler un peu à Michel que j'ai pas vu depuis si longtemps.
Alors, c'est vrai, Benjamin, voilà. Salut. Comment tu vas?
Comment vas-tu? Ça va bien et toi?
Ça va très bien.
Oh, formidable.
Voilà, il faut savoir que Benjamin et Hervé, donc, sont des amis d'enfance. On passait nos vacances ensemble et on a des grands souvenirs, ensemble. Et
oui,
Benjamin, j'ai suivi ton actualité et voilà. Écoute, je suis ravi de t'avoir au téléphone.
Ben moi aussi, je suis aussi ton actualité et je veux un jour venir t'écouter chanter Francis. Voilà.
Eh ben pareillement, je viendrai t'écouter chanter.
Ah ouais, ça ferait très plaisir. Très plaisir.
Bon. Voilà.
Alors Benjamin, c'est un serment hein, qu'il va falloir tenir. Hein?
Voilà. Ah oui, oui, oui.
Benjamin qui était à notre antenne, qui est venu nous voir, c'était le 9 janvier. Je rappelle qu'on peut réécouter l'émission de 2 heures autour de Benjamin Legrand le 9 janvier, toujours en podcast sur Radio Libertaire. Benjamin était en face de moi et maintenant il y a Michel. Alors, Benjamin, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent tout de suite pour dire encore des belles petites choses à Michel Corbe? Encore?
Ben, ce que je pourrais dire, c'est que la famille Lemarque, c'est comme ma famille. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont traversé toute ma vie, qui étaient des amis très proches de mes parents. On a passé plein de belles vacances ensemble, notamment à la Foudalos, où Francis et Ginny avaient leur magnifique chalet de montagne. Et on a passé tellement de temps, et ça a été toujours un grand bonheur. Alors, un petit souvenir rigolo que je raconte de temps en temps, c'est que la première fois que j'ai marché sur mes petites jambes, c'était à la Varenne chez Francis et Ginny. Voilà, c'est pour vous dire qu'ils m'ont vu naître et ils me connaissaient depuis longtemps.
D'accord.
Et puis, voilà, et puis vous savez, je pense toujours à ça. Mon père a commencé à écrire des chansons avec Francis, à faire des arrangements. Ils ont fait des musiques de films ensemble. Francis a bien aidé mon père à démarrer aussi dans le métier. Et puis Francis a eu un acte formidable que les gens ne savent pas forcément, que c'est lui qui a payé la musique des Parapluies de Cherbourg. C'est lui qui a avancé l'argent pour produire la musique des Parapluies de Cherbourg, alors que Jacques, Denis et mon père cherchaient désespérément des investisseurs qu'ils ne trouvaient pas. Et grâce à ça, le projet a pu se faire. Donc c'est grâce aussi un peu à Francis que les parapluies de Cherbourg ont existé. Donc évidemment, par la suite, les demoiselles de Rochefort, Pondane et tout ça. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et ça a été formidable de sa part de faire ça.
Tu sais, j'ai une anecdote qui me vient avec ton père et mon père.
Oui.
C'est pour les enregistrements, je pense que c'était pour les demoiselles de Rochefort.
Oui.
Ton père, qui était un génie sans bornes, venait à la Varenne, donc, chez Francis, pour travailler. Et au lieu de travailler, Michel disait à Francis, j'ai envie de jouer à la belote. Et donc il se mettait à jouer aux cartes. Et Francis nous racontait qu'il avait des gouttes qui perlaient de son front, parce que lui, il était en charge des séances, il était l'éditeur. Et ton père, donc, jouait aux cartes pendant des heures.
Et
vers minuit, il s'enfermait dans la pièce de travail de Francis, et il écrivait les arrangements. Et en fait, voilà. Et c'est une anecdote qui nous a toujours beaucoup
fait rire. C'est vrai. Parce que mon père a toujours travaillé comme ça, le dos au mur quand il n'avait plus le temps et dans l'urgence. Voilà, il a toujours travaillé comme ça, donc ça a fait effectivement paniquer pas mal de monde autour de lui, ces choses-là. Voilà.
Oui.
C'est rigolo, bah oui. Je me rappelle très bien de la grande pièce que Francis avait à la Varenne, la grande pièce de travail avec son piano, tout ça, ses magnétos, tout ça, formidable, absolument.
Tu sais, c'est marrant parce qu'il y avait un poulailler qui était juste à côté de la pièce de travail, et j'ai réécouté des bandes il y a quelques années de mon père qui travaille, et derrière on entendait on entendait les poules qui
c'est amusant.
Voilà.
Et oui, qui faisaient les cœurs.
Qui faisaient les cœurs, exactement.
Ah, c'est drôle. Ah, c'est amusant.
Voilà.
Ah, bah oui, Michel. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tellement de souvenirs ensemble.
C'est vrai.
On ne sait pas par où commencer. Et c'est toute une vie, quoi. C'est toute une vie qu'on a partagée. Et vraiment tellement de moments formidables. C'est pour ça que je serais heureux de te revoir et qu'on reprenne tout ça.
Après l'émission, on va s'appeler. Hein,
voilà,
on va faire ce qu'il faut.
Tout à fait. Voilà. Et alors je me rappelle aussi que Francis, très gentiment, un jour, ça me revient en mémoire, m'avait invité pour une émission dont il était la vedette. C'était l'émission de Jean-Louis Foulquier et Pollen.
Ouais.
Et Francis m'avait gentiment invité à venir chanter deux chansons dans son émission.
D'accord.
Voilà. Ça m'avait beaucoup touché aussi, il y a longtemps de ça, mais ça me revient aussi. Voilà.
Ah,
c'est quelqu'un vraiment de très généreux et que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Voilà.
D'accord. Bon, bah écoutez, c'est super.
Voilà, mon cher Michel.
C'est bien.
Benjamin, on aurait envie de prolonger, mais là maintenant, on est très heureux que Radio Libertaire puisse créer l'envie à des artistes de se retrouver. Donc, vous avez entendu en direct, tout le monde a entendu, après l'émission, à 14h03, rendez-vous téléphonique entre Michel Korb, fils de Francis Lemarque, et Benjamin Legrand, fils de Michel Legrand. J'ai indiqué sur un petit communiqué que j'ai envoyé à la radio que ça allait être une émission un peu familiale. Voilà.
C'est très familial, absolument.
Absolument.
J'ai adoré cette anecdote des poules qui caquettent. C'est vrai que ça pourrait faire des petite percussion là, rythmique là, pour un enregistrement, puisqu'il y a le studio à la Varenne,
il n'y a plus maintenant.
Ah ouais. Mais ça a été un endroit où Francis Lemarque a enregistré une centaine de chansons, c'est bien ce que j'ai lu.
Oui.
Voilà,
j'avais enregistré moi la première, une chanson pour Jacques Canetti, la première fois que j'avais enregistré sur un disque, un album qui s'intitulait Je suis heureux, dans lequel Francis était également, et j'avais enregistré ma chanson au studio de Francis à la Varenne.
Ah, voilà, d'accord.
Pour la toute anecdote.
Okay,
voilà.
Mais en fait, ce sont les petites anecdotes qui font le charme, le sel de la vie, parce que ça résume souvent beaucoup de moments de bonheur. Et moi,
absolument,
je suis très heureux qu'après l'émission, vous puissiez reprendre contact. Et là, c'est une très, très grande joie, vraiment.
Absolument. Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, c'est Michel qui va te dire au revoir. Moi, je te dis au revoir tout de suite, mais au revoir par Michel Korb, c'est à l'instant.
Benjamin, je t'embrasse et je te dis
émission,
à très vite.
Et à très très vite. Bise, je t'embrasse.
Bise,
à très vite. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.
C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bar au milieu de la ville. Bar, petit bar, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Hein? Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique qui discutait politique avec l'agent flegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Un petit bar où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Ah mes amis, ce fut une belle noce, le patron et ses huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bar où l'amour, un soir en dansant, nous a réunis pour toute la vie.
Vous écoutez Radio Libertaire, vous avez bien raison, nous sommes en direct et comme vous le savez, nous avons un canevas, bien sûr, de chansons qui sont prêtes à la diffusion. Et pendant l'émission, eh bien, nous changeons un petit peu, parfois, pour nous faisons l'émission vraiment en direct avec mon invité Michel Corbe et bien sûr le précieux concours de Ariel qui fait un petit peu d'acrobatie comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre et sur quels arrangements ?
Ben, c'était Bal Petit Bal sur les arrangements de Michel Legrand, justement. Voilà, hein, donc le fameux Michel Legrand qui a été... Vraiment le complice de mon père, complice musical pendant de nombreuses années.
Et une grande amitié là, on l'a
senti.
Une
grande amitié, hein. Ouais. Et puis il se complétait très bien parce que mon père avait il avait le sens de la mélodie et Michel qui avait aussi le sens de la mélodie, mais là en tout cas dans cette collaboration, il était plus là pour créer des arrangements autour des chansons de Francis.
Ils se sont vraiment bien complétés.
Ils se sont très bien complétés, et dans la chanson, et dans le cinéma, mais ça, c'est une autre histoire.
Une belle, magnifique histoire, hein, quand Benjamin nous le disait, tu me l'as dit aussi quand on a préparé cette émission, il est arrivé au secours des parapluies.
C'est ça.
Il a ouvert le parapluie, si on peut dire, c'est les ça. Parapluies.
Ouais, absolument.
C'est quand même dingue quand on pense que les investisseurs, les producteurs étaient frileux, étaient dans le doute. Pour
eux. Oui. Ouais, c'était très avant-gardiste, les parapluies de Cherbourg, parce que c'était vraiment... c'était un style de comédie musicale avec des dialogues de tous les jours mis en musique. C'est quand même très très spécial, mais voilà, c'est en tout cas c'est Francis qui a effectivement ouvert la porte,
permis cette aventure. Alors je regarde le conducteur, on a changé des petites choses.
On parlait de Montand tout à l'heure.
Ah ben oui, voilà, on va écouter Montand. Heureusement que Michel Corbe est là, hein, pour me rappeler le programme de l'émission, parce que je suis... Bon, c'est vrai que je suis un peu sur un petit nuage, et puis vous le savez, juste avant, on a un petit peu modifié les choses, comme on fait souvent, donc voilà, c'est le vrai direct. Eh bien, Ariel, ça y est, on a un tube... Super tube, et on l'écoute maintenant.
Ah. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Quand on t'enchante, la chanson qui fronde se marie au refrain d'amour. Quand on t'enchante, c'est pour tout un monde, du fond des campagnes au faubourg. Quand mon temps chante, quand mon temps chante, les mots s'envolent et caracolent. La musique leur donne des ailes. Ils voguent jusqu'à ces lointains et merveilleux royaumes, là où les portes ne s'ouvrent qu'avec une seule clé. La clé de cœur. Quand mon temps chante, quand la colère gronde, ses mots claquent comme des fusils. Quand mon temps chante, entre dans la ronde ceux qui chantent aussi fort que lui. Quand mon temps chante, entre. Quand mon temps chante, la rue devient autre chose qu'une simple rue. Elle se métamorphose en un immense théâtre sur la scène duquel s'agitent d'étranges marionnettes qui se bousculent, s'aiment, se détestent, chantent, luttent, souffrent ensemble. Ombres anonymes que l'on croise sur tous les trottoirs du monde. Quand mon temps chante tous les beaux dimanches, s'habille de refrains heureux. Quand mon temps chante, mets ta robe blanche, Paris sourit aux amoureux. Quand mon temps chante, quand mon temps chante, l'eau de la Seine paraît moins grise. Sur ses flots argentés, voguent de fragiles caravelles. Le vent gonfle leurs voiles et les pousse vers des ports inconnus. Les voix rocailleuses des accordéons magiques saluent leur passage du haut de chaque pont et déversent sur eux un feu d'artifice de perles de cristal. Quand mon temps se tait, sa voix chante encore plus fort, plus vivante, plus généreuse que jamais. Longtemps, longtemps, elle résonnera dans la mémoire des hommes. Et la fête continue pour le plombier zingueur, le petit sireur noir de Harlem, la rose de Picardie, le soldat à la guerre, le routier solitaire. Et quand les feuilles mortes ont tout recouvert, on les ramasse à la pelle et tout recommence à nouveau, à l'appel de la vie, qui jamais ne s'arrête, qui suit d'un pas tranquille son petit bonhomme de chemin, nous conduit par la main le temps d'une existence, et nous lâche un matin, sans qu'on s'y attende, quelque part, dans un monde inconnu. T'avais une belle âme, t'avais une belle âme, ça t'a pas empêché de partir. Toutes les fleurs se fanent, toutes les fleurs se fanent et meurent pour mieux refleurir. Et vivre éternellement au plus profond du souvenir. Allez viens, on va faire un tour à Luna Park.
Vous écoutez Radio Libertaire, émission Faites-nous des chansons avec Laurent pour le deuxième jeudi de chaque mois et toujours Ariel à la technique. Nous sommes en direct jusqu'à 14h et je suis très heureux, vous l'avez entendu, d'accueillir pour la première fois, il fallait le faire, nous l'avons fait, Michel Corbe, l'un des deux fils de Francis Lemarque, qui connaît bien l'histoire de son père et qui a travaillé, et son père qui a écrit des compliments, notamment qui a dit dans une interview qui est paru dans Je chante discographie, à l'époque ça s'appelait, c'était en 1994, et bien justement 1994 correspond à la date de sortie de cet album. On vient d'écouter Lemarque 94, et dans le livret j'ai remarqué une chanson qui s'appelle Marché, qu'on connaît fort peu, avec des paroles d'un certain Claude Lemel qui était un jour ici parmi nous, avec Claude Lemel, Roland Romanelli et Frédéric Brun. Eh oui, on a eu cette chance-là. Donc tout se mêle, tout se rencontre.
Tout se recoupe.
Hein. Oui, alors il y a un texte dans ce livret et je viens de demander, comme je le fais souvent, au déboté, à mon invité, de lire une très belle dédicace qui va tout, non pas vous expliquer, mais qui va nous remettre dans un climat d'amour et d'amitié.
Alors, mes chaleureux remerciements à Carole Amiel, Catherine Allégret, les disques phonogrammes, les éditions Enoch. Ils m'ont permis d'enregistrer, comme j'avais envie de le faire, la chanson « Quand mon temps chante » qu'on vient d'entendre. À Roland Romanelli, plus d'une fois, comme c'est étrange, sur un air en colimaçon, j'ai entendu la voix des anges sortir de son accordéon. À Jean-Louis Foulquier, il m'a couvert d'éloges, pourtant il me connaît bien. Merci encore à Michel, aux musiciens, aux techniciens. Ils ont permis en commun leur talent pour la réalisation de ce disque. Voilà. Donc il faut savoir que Quand mon temps chante, c'est une chanson qu'on a écrite ensemble avec mon père.
Et j'ai rarement vu mon père dans l'émotion comme ce moment-là, parce que quand il chantait cette chanson, il était assez ému, parce que c'était un vrai hommage pour lui. C'était l'hommage qu'il voulait rendre à son idole, Yves Montand. Donc c'était un moment assez fort, pour moi en tout cas, d'être témoin de la naissance de cette chanson. Donc où j'ai composé la musique, il a écrit les paroles. C'est sur un album qui s'appelle Le Marc 94, dans lequel Roland Romanelli justement joue de l'accordéon. Et voilà, donc c'était une très très belle aventure avec mon père.
C'était dans la réalisation de tout un album, c'était une première expérience, pour toi.
Oui, enfin, tu sais, on a travaillé plusieurs fois ensemble, mais là, c'était la première fois qu'on faisait un album ensemble.
En tout cas, on sent là vraiment l'émotion, là, on sent quelque chose, hein, dans même le grain de la voix, il y a quelque chose. Je remarque encore une petite parenthèse, une deuxième chanson, Il pleut sur les cerises.
Il pleut sur les cerises.
Toujours signé Claude Demel, que nous saluons. Et puis je vois un titre de Carco, parce que là aussi.
Je me souviens de la Bohème.
Mais oui, alors là. Je pense avoir lu en préparant cette émission qu'il avait fait un disque autour de Carco.
Absolument.
Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein.
Oui, il a fait un disque.
On peut en parler un tout petit peu ? Non, c'est juste pour le citer. Hein. On cite Carco aussi. Voilà, parce que les rencontres de Francis Lemarc, effectivement, il faut un bouquin de 450 pages, là, ce bouquin qui existe, on va rappeler le titre pour ceux qui pourraient le trouver.
J'ai la mémoire qui chante.
Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce titre, déjà, ça m'avait interpellé, ce titre, parce que, voilà, c'est... Est-ce que c'est le seul livre sur ton père ?
En tout cas, c'est le seul livre que lui a écrit.
Oui.
Après, il y en a eu d'autres, il y a eu des... Pas te les citer comme ça tout de suite.
Non, c'est juste, voilà. Est-ce qu'il y a eu Christian Pirot qui a édité des textes, je crois, il me semble. Enfin, on va vérifier tout ça. En tout cas, c'est énorme, hein, c'est une vie énorme. Alors, j'ai beaucoup, je suis pas mal documenté, les voyages culturels en Chine.
Ouais.
Je crois, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ça doit être le seul chanteur français qui a été approché par Mao Tse-tung et Chou En-lai, et qui en plus a rencontré le Dalai Lama. C'est un truc de dingue, ça.
Bon, tu sais, c'était un des premiers à partir en 1954. Mmh. C'était dans le cadre des amitiés franco-chinoises. Il est parti, c'était une des premières délégations culturelles à partir en Chine, en Union soviétique, en Corée.
En Corée du Sud, du Nord, attends, est-ce qu'il y avait... Ah oui, il y avait... Est-ce qu'il y avait la partition encore, peut-être pas... Oui, c'était après la guerre de Corée, donc il y avait les deux. C'était la Corée du Nord ou du Sud? Oui, ça c'est la question piège aussi. Moi, c'est la question que je me suis posée, puisqu'on sait très bien que, voilà, c'est pas la même sensibilité politique, on va dire. Hein. Voilà. Mais bon, tout le monde le sait, Francis Lemarc était... proche du Parti communiste, et ce qui est intéressant, c'est que comme Montand, il a été ce qu'on appelle un compagnon de route, mais qu'il n'a jamais été encarté, et j'ai lu qu'il a, comme Montand il s'ignorait, il a ensuite bien pu constater ce qui se passait en Union soviétique, qui ne correspondait pas au paradis socialiste dont on avait quelques échos, difficilement d'ailleurs, il a vu la réalité, il a été toujours extrêmement conscient. Moi j'ai été fasciné par Francis Lemarc, surtout un homme qui est né dans une famille extrêmement modeste, et qui a fait des métiers, alors c'est hallucinant les métiers qu'il a fait, j'ai pris quelques notes, mais alors c'est un truc qui m'a vraiment garçon livreur, ouvrier métallurgiste, fourreur culottier, camelot chapelier, tailleur pour dames, ouvrier imprimeur, il y en a peut-être d'autres encore. Alors,
C'est intéressant parce
qu'il a été vendeur de journaux.
Ah ouais.
Et tu vois ce film Drôle de drame, bien sûr. Et ben, une des premières scènes de Drôle de drame se passe dans la rue. Et t'as un vendeur de journaux qui crie, qui a la criée, tu sais. C'est Francis.
Oh là là.
Donc c'est de la figuration sur le vif, en fait, hein, tu vois.
Sur le vif, et puis c'est ce qu'on appelle in situ, c'est vraiment, ça correspond à une vraie histoire, quoi. C'est, voilà, il a été choisi dans, on peut dire, dans le sens de l'histoire.
C'est ça.
Voilà. Oui, oui, alors ça c'est quand même, oui, donc il a eu cette conscience quand même, cette conscience politique, cette conscience sociale. Et bon, moi je fais partie de ceux, il y en a beaucoup qui ont pu voir Yves Montand sur scène en 81, c'était un éblouissement. Et en 1988, je crois, ou 98, je ne sais plus la date, c'était au Théâtre de l'Est parisien. Mmh. Et j'ai vu, enfin sur scène Francis Lemarque, voilà, je voulais le dire aussi. Et je me souviens... Le public était déchaîné, il voulait des rappels, mmh. Le public, mais c'était hallucinant, mais vraiment, c'était pas une star, c'était un ami. Voilà, on avait j'avais cette perception dans le théâtre de l'Est parisien, qui était à l'époque avenue Gambetta, hein, c'était cette adresse-là, je me rappelle très très bien, et je me souviens, et j'étais pas très loin, là, mais tout le monde peut le voir, tout le monde l'a vu, il a mis... ses deux doigts sur sa gorge parce qu'il a fait comprendre au public qu'il avait une petite angine, quelque chose comme ça, des petits soucis de corde vocale, et qu'il ne pouvait pas faire 3, 4, 5 rappels, mais à mon avis, s'il avait pu, vocalement, il l'aurait fait, parce que l'accueil était exceptionnel, vraiment. Voilà.
Oui, mais je me souviens très bien de cette période.
Ah ouais, comme ça, il a fait. Ouais. Je me rappelle de ça m'a marqué, ça me marque toujours. J'ai senti une sorte de raz-de-marée de tendresse pour cet homme-là, vraiment.
Mais tu sais, tu me disais qu'on avait l'impression que c'était un copain. Il faut savoir que l'amitié pour Francis, c'était quelque chose de très très important. Et tu le retrouves dans ses chansons, tu vois, Mon copain de Pékin. Il allait à l'autre bout du monde pour, tu vois, il arrivait à se faire des copains un peu partout, en fait. Ou en bas de chez lui, avec le petit môme... enfin voilà, donc il était... l'amitié, c'était très important pour lui. Très très important.
Mais on sent dans ses chansons, il y a toujours ce... Il était traversé par une harmonie. Je pense que... Je l'ai lu aussi, mais on peut le deviner. Il a eu une enfance modeste, mais je pense heureuse. Il a été traversé par le bonheur très tôt. Et ça arrive pour certains artistes de durer longtemps et d'être toujours en équilibre.
C'est vrai.
Je pense que c'est l'enfance qui détermine beaucoup de choses. Et pour quelqu'un qui va se montrer sur scène pendant 50 ans, il faut quand même pouvoir tenir. Et on tient, je pense, parce qu'on a reçu un héritage. Et c'est, je pense, l'héritage affectif.
C'est vrai, c'est vrai. Il avait un don pour être heureux. Tu vois, il était... tous ses souvenirs, alors peut-être qu'il avait une façon de... une mémoire sélective, peut-être, tu vois, peut-être que les mauvais souvenirs, il les rangeait dans un coin. Mais tous ses souvenirs, quand il les racontait, par exemple, même ses souvenirs de guerre, ne semblaient pas être des souvenirs douloureux, en tout cas dans la façon dont il les racontait. Et probablement, dans son souvenir, il avait gardé quelque chose de positif sur tout ce qu'il avait vécu, en fait. Et ça, c'est une vraie force, tu vois.
Ça me rappelle là, ce que je viens de lire là, pendant plusieurs mois. Il avait travaillé en usine, c'était très difficile. Il y avait garde-chourme, il y avait des gens redoutables. Et il a réussi à tenir. Il savait qu'il devait partir, mais il avait cette force de résister calmement. Mmh. Ça, c'est quand même pas fréquent. Hein.
C'est vrai.
Ah, ouais.
C'est vrai.
Oh, vraiment. Montand aussi travaillait en usine, aussi. Hein, il tapait sur des drôles de fer, aussi. Il y a quand même des destins, voilà, qui ont...
Destins croisés.
Oui, oui. Là, c'est vraiment... là, c'est très fort. J'ai étudié un peu tout ça, un peu ce que j'appellerais les passerelles silencieuses entre des êtres humains. Et cette rencontre, là, j'ai lu que quand Prévert a appelé Montand, il paraît que ton père était une heure après chez Montand, quoi. Ça s'est fait rapidement. Ça a été être recommandé par Prévert, quand même, c'est assez extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, je rappelle aux auditeurs puisque nous sommes bientôt à la deuxième heure, nous approchons de la deuxième heure, je reçois Michel Corbe, qui est donc l'un des deux fils de Francis Lemarque, qui chante et qui compose, et donc on a entendu, et bien sûr des arrangements, et donc qui est vraiment inséré dans ce milieu de la chanson. Et
les chiens ne font pas des chats.
Et ben voilà.
Voilà.
Dixit,
j'y
Michel.
Peux rien. C'est et comme ben ça. Oui.
C'est la suite naturelle. Alors, nous attendons un appel. L'appel, ça peut être normalement. Oui, j'ai noté sur mes petits papiers. Ça peut être peut-être Frédéric Brun, voilà. Et puis, ça y est, j'entends Ariel qui prend l'appel. À l'instant, c'est vraiment le direct. Hein. Ah ben c'est Frédéric, ben voilà, hop, boule de cristal. Voilà, on entend Ariel qui discute avec Frédéric Brun. Allô.
Oui, bonjour.
Frédéric Brun qui est déjà venu sur notre antenne. Frédéric qui appelle.
Bonjour Laurent.
Bonjour à toi.
Michel.
Et Michel.
Salut Frédéric, ça va?
Oui, et je suis en train d'écouter votre émission. J'apprends des choses. J'écoute avec plaisir et j'ai entendu Montand qui chante. Je connaissais pas l'histoire de cette chanson. Tu vois,
tu veux dire la création de la chanson quand Montand a refusé la chanson?
Non, mais la chanson que tu as écrite avant.
Ah oui, quand Montand chante, oui, absolument.
Oui. Voilà. Donc j'apprends des choses grâce à l'émission et. Ça me fait plaisir de vous entendre et de dialoguer avec vous quelques instants, parce que nos parents ont été assez amis.
Absolument.
Et maintenant, c'est les enfants qui continuent un petit peu la route et puis à leur rendre hommage. C'est un long chemin d'ailleurs parce que tu parlais de 1994, je crois, pour quand j'ai entendu pour la chanson.
Oui, absolument.
Et moi, c'est une année où je rendais hommage à mon père pour ses 50 ans de chanson en 1994 à l'Olympia. Donc ça fait 30 ans qu'on continue à leur rendre hommage. Ouais, moi, je sais que j'ai un parcours qui n'est pas forcément évident parce que quand on fait soi-même aussi des choses, quand toi tu composes, tu arranges, moi j'écris et c'est pas toujours facile de rendre hommage tout en faisant soi-même. Et tu le fais très bien, donc et voilà. Moi, quand je pense à ton père, je trouve qu'il y a des correspondances avec le mien. J'ai pas encore cité son nom, Jean-André-Jacques. Je pense que c'était des hommes de cœur qui écrivaient des chansons avec leur cœur et sincérité. Et je trouve qu'ils se rejoignent un petit peu dans ce sens-là. Ils ont un point commun aussi, parce qu'ils ont tous les deux une chanson très connue sur Paris.
Sous le ciel de Paris.
Et à Paris.
Et à Paris, oui.
C'est aussi un point commun. On s'est connus ensemble aussi. Vous avez parlé de Michel Legrand. J'ai entendu Benjamin tout à l'heure qui a parlé. Je me souviens aussi qu'on était enfants et qu'on a joué en présence de je crois que c'était la Foudalos, où on avait passé des vacances, Michel, Francis et mon père. Et toi et moi.
La Foudalos.
Et Benjamin.
La Foudalos, c'était, pour les gens qui ne savent pas, c'était donc une maison que nous avions à la montagne, qui a accueilli vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et on a eu des années de jeunesse absolument merveilleuses dans cette, dans ce chalet de montagne.
Je me souviens de ça. Enfin, c'est les images qui me reviennent. Et en tout cas, c'est vrai que ce que tu disais, un don pour le bonheur, les chansons de ton père sont joyeuses, poétiques. C'est une belle œuvre. Et d'ailleurs, on connaît pas forcément toutes les chansons des auteurs, compositeurs, interprètes qu'on apprécie. Et donc l'émission de Laurent est faite pour ça. Elle est très bien faite et ça nous permet d'apprendre des choses.
Tu sais, du vivant de Francis, en fait, moi je survolais son œuvre de façon j'avais les grands tubes dans la tête, tout ça, voilà, mais je voyais ça d'un peu loin, en fait. Et maintenant que je les chante sur scène, maintenant que Francis n'est plus là, et ben je suis rentré un peu dans le truc, et on s'aperçoit que à travers ce ton léger qu'il avait de dire les choses, il y avait derrière des choses très graves, tu vois. Par exemple, quand un soldat, c'est une chanson qui a un vrai message, une vraie gravité, mais dit avec des mots toujours très poétiques, très légers, très fleur au fusil, tombe en battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Enfin, tu vois, c'est très. Il avait toujours cette image très positive à travers ses textes. Même pour dire des choses graves.
Et c'est pour ça que je parlais de correspondance, dans le sens où mon père aussi avait écrit une chanson pour Henri Salvador, qui s'appelle Quand un artiste, et qui commence par. Je ne me souviens pas des paroles exactes, mais. Quand un artiste a le cœur triste, s'il entre en scène, il doit pas montrer sa tristesse. Et oui, il y a un arrière-fond qui est pas forcément toujours évident. Mm-hmm. Et ton père était doué pour le bonheur, et puis apporter du bonheur aux gens à travers ses chansons.
C'est ça.
C'est important. Il le faisait avec un important talent. Et alors, ce que je crois que Laurent était au courant, si vous évoquez aussi un petit lien entre Francis et mon père, c'est que ils s'appréciaient, ils étaient amis, et ils ont fait une chanson ensemble.
Mais oui, absolument.
Une chanson que tu as chantée récemment, une rencontre.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Qui s'appelle
L'Orgue de Barbarie.
Oui. Et qui est sur Paris. Voilà, ils ont fait une chanson connue sur Paris. Mm-hmm. Ils ont fait une chanson moins connue sur Paris qui s'appelle L'Orgue de Barbarie, qui est très, très jolie, je trouve.
Oui, absolument. Oui, c'est vrai.
Le hasard, très, très cher Frédéric, fait que cette chanson est en train d'être sur notre platine. Elle est là.
Ah, tu l'as trouvée.
Mais oui, je dois remercier publiquement EPM, Christian de Tarlet, qui m'a envoyé très rapidement le coffret. Là, je fais la confession publique, hein, je ne le retrouvais plus dans mes 3000 albums qui sont chez moi. Et en 3 jours, j'avais le coffret Jukebox Troubadour, Jean Dréjacques. Et j'étais tellement content. Bon, j'ai remercié Christian de Tarlet. Je pense qu'il nous écoute ou qu'il va pouvoir nous réécouter en podcast. Je rappelle que Radio Libertaire, on fait Radio Libertaire, on regarde, c'est très bien indiqué, et on fait réécoute, podcast, et on peut retrouver cette émission pendant un an. Alors Frédéric, voilà, il y a cette chanson magnifique, voilà, c'est un peu le lien. Et dans le très beau livret de Jukebox Troubadour, il y a une affiche, 22 septembre 1994, Olympia, Jean Dréjacques, 50 ans de chanson. Alors il y a bien sûr les titres emblématiques, à Le Petit Vin Blanc, Sous le ciel de Paris, L'homme à la moto aussi, hein, qu'il faut absolument citer, et puis bien sûr la chansonnette, avec la participation de Michel Legrand, Henri Salvador, dont tu parlais à l'instant, Nilda Fernandez, Enzo Enzo, on doit normalement programmer, on aura le temps absolument de programmer une chanson d'Enzo Enzo avec Michel Corbe, Romain Didier, qui doit nous appeler tout à l'heure à 13h30, Jean-Guy Denis, Marcel Amon, Fanny, Karim Cassel, le groupe TSF, René Lebas, remarquable interprète aussi. Il y avait Marcel Azola et des invités surprises. C'était à l'Olympia, c'était le 22 septembre 1994, la même année que le disque justement magnifique de Francis Lemarque. Voilà, il y a quelques correspondances comme ça dans ce qu'on appelle la temporalité. Voilà.
Oui, oui, oui. Correspondances qui sont agréables et à se remémorer. Et puis on a un petit secret avec Michel, c'est que Michel continue son le chemin de compositeur. Moi, je suis aussi le chemin d'auteur, un peu plus dans la littérature maintenant, mais je quand même un peu de temps en temps en chanson. Et on espère retrouver une chanson qui sera peut-être enregistrée un jour. Hein, on ne sait jamais si on la retrouve, hein, Michel.
Décolle pas tous les avions, c'est ça?
Oui, oui, oui.
En fait, c'est une chanson qui doit être dans un carton, mais alors où? Je ne sais pas, sur une cassette, parce qu'à l'époque c'était des cassettes. Écoute, en tout cas, si on la retrouve, on en fera quelque chose.
On en fera quelque chose. Alors, si vous passez l'orgue de Barbarie, ça me fera plaisir de. Et tu as parlé aussi du livre. J'ai la mémoire qui chante, et comme je garde tout, ton père l'avait envoyé bien évidemment à mon père avec une belle dédicace, et je me souviens que je l'avais lu à l'époque.
Oui.
Il m'avait beaucoup intéressé ce livre, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses que j'avais apprises en lisant ce livre, et ça me donne envie de le relire, parce que c'est... je sais pas en quelle année il a été publié.
En 92.
92, donc voilà, donc je l'ai lu il y a plus de 30 ans, donc il y a certaines anecdotes que j'ai oubliées, et votre émission me donne envie de le relire.
Eh ben écoute, comme j'ai dit, malheureusement, il reste très peu d'exemplaires, mais...
Non mais je l'ai, moi je l'ai gardé.
Ah ben voilà, ah ben très bien.
D'accord. Avec la dédicace de ton père, je l'ai.
Ah d'accord, d'accord, super.
Je l'ai.
Génial.
Ouais.
Bon ben c'est super.
Bah, très bien. Et écoutez, si on entend l'orgue de Barbarie, ça sera très agréable.
Eh bien, c'est dans quelques secondes, Frédéric Brun, le fils de Jean-André Jacques. Alors Frédéric, qui est donc, voilà, qui écrit, mais qui est aussi un éditeur avec les éditions Poésis, on peut le dire quand même à l'antenne, c'est bien ça?
Oui, oui, c'est vrai, oui. Que je... Bon. Bon, je suis pas venu, j'appelle pas pour parler.
Non, c'est moi qui fais, c'est moi qui le dis, parce que ça veut dire que c'est une continuité, c'est-à-dire que tu es la continuité pour soutenir des auteurs, alors des poètes et des écrivains, c'est bien ça?
Oui, c'est-à-dire que j'accorde une importance... Michel de parler de cette histoire de chat et de chien, de continuité, de transmission, et c'est vrai que moi j'essaye de transmettre encore de la poésie. Je me suis un peu éloigné de la chanson parce que je trouve que la chanson c'est un âge d'or, hein, les années 50, 60, 70 pour les textes poétiques de chansons. C'est il y a bien sûr encore toujours des textes très poétiques, mais c'est moins prononcé, je pense. Et donc moi j'essaie de continuer ce chemin poétique aussi à travers les livres où j'ai une liberté un peu plus grande que dans le monde de la chanson actuellement, mais ça reviendra peut-être. Enfin, je ne sais pas comment tu ressens ça, toi, Michel, si tu ressens autant de poésie et je trouve qu'il y a eu un âge d'or quand même pour la chanson poétique, mais peut-être que tu y trouves ton compte. On parlait de Romain Didier, par exemple.
Oui, c'est un grand poète.
C'est magnifique sur un plan poétique. Alain Leprès, c'est bon. C'est sûr que des chanteurs comme Alain Souchon, Cabrel, tu sais, il y a de la poésie, Alain Souchon est une très belle tournée actuellement, mais l'ambiance générale, et puis aussi qui correspond au monde actuel,
Et moins tournée vers la poésie, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est un peu plus... Il y a des paroles souvent un peu plus agressives, un peu plus... c'est comme ça que je le ressens.
Moi, je m'adapte, on va dire, à toutes les périodes et les générations et leur façon de s'exprimer. Mais après, effectivement, on est, toi et moi, d'une génération où on a connu une chanson qui s'exprimait plus à travers la poésie que maintenant. C'est vrai.
Et d'ailleurs, vous avez parlé de Jacques Prévert, il y a même eu une période où les poètes faisaient des chansons... Les poètes célèbres ont été mis en musique Aragon aussi, les poètes actuels sont moins mis en musique aussi qu'à une certaine époque.
Frédéric Brun, fils de Jean Dréjacques. Je veux rappeler qu'il y a ce magnifique coffret, ça s'appelle Jukebox Troubadour Jean Dréjacques, avec des auteurs... en fait, il y a même pas mal de... quelques correspondances avec... l'univers de Francis Lemarque. Il y a des interprètes qui ont Gréco, entre autres, il y a eu des ponts, des passerelles, il y a eu beaucoup de choses d'un univers en commun, avec aussi des très belles photos, les textes de certaines chansons, et trois disques, donc, dans ce coffret Jukebox Troubadour.
C'est gentil.
Je recommande, parler. Parce que c'est une œuvre qui a été faite et c'est exactement le travail que fait mon invité, Michel Corbe, pour son père Francis Lemarque, c'est-à-dire un travail de respect, un travail de continuité, un travail de passion, dans la discrétion, mais avec beaucoup de volonté, pour faire toujours exister ces répertoires de la chanson que j'appellerais d'un temps heureux. Je crois que, parce qu'il y avait quand même sève de l'après-guerre aussi, il faut dire aussi, qui s'est prolongée aussi, et il y avait une créativité absolument exceptionnelle, et c'est vrai qu'on a peut-être pas tout à fait l'équivalent aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Frédéric...
Et l'intérêt de Jean de Coffret aussi, c'est que l'Orgue de Barbarie n'a existé qu'en 45 tours.
Oui.
Et l'on n'a pas été un succès comme les chansons dont on parlait à Paris ou sous le ciel de Paris, mais elle n'avait jamais été numérisée. Et donc, le fait de la mettre sur un coffret patrimonial... Ça permet aussi l'intérêt, ça permet que cette chanson soit existe en CD, en fait.
C'est magnifique cette aventure. Merci encore à quelques labels.
Et alors, donc, je vais être content de m'entendre pour une fois de plus. Oui. Et merci Michel. Et puis on aura certainement encore l'occasion de reparler de ton père et puis de notre amitié. Voilà.
Absolument. On se rappelle très vite.
À bientôt. Salut. À bientôt et bonne fin d'émission.
Merci.
Dans le cœur de Paris, l'orgue de Barbarie, gentiment tourné, la chanson fleurit. Un ruban de ciel bleu se déroule et il pleut, des rayons de soleil dans le matin frileux. Quand s'ouvrent soudain les fleurs du printemps, quand l'hiver sèche ses pleurs, hésitant, malgré le bruit des moteurs, on entend dans le cœur de Paris, l'orgue de Barbarie, on revoit les amoureux sur les quais, qui rallument langoureux leur quinquet. Ils se font rien que pour eux des bouquets de fleurs bleues, car dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, gentiment tournez la chanson d'amour. Dans le cœur de Paris, fait des tours et des tours, se propage alentour et jusqu'en haut des tours. Quand l'ordinateur fleurit ses boutons, on entend malgré le poids du béton, de la Défense au pont de Charenton. Dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, et malgré les cris d'un monde excité par tous les ennuis qu'on pourrait citer, les habitants de la vieille cité sont heureux quand dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, gentiment tourne et tourne et la chanson fleurit. Un ruban de ciel bleu se déroule et il pleut, des rayons de soleil dans le matin frileux. Dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, gentiment tourne et tourne et la chanson fleurit. Dans le cœur de Paris, l'orgue de barbarie, gentiment tourne et tourne et la chanson fleurit.
Marjolaine, le printemps s'enfuit.
ça y est, nous sommes à l'antenne, puisque Ariel, bah oui, Ariel avait un correspondant au téléphone, puisque nous avons prévu un troisième correspondant, ben, ça va être dans quelques minutes, 5 minutes, on va voir, c'est normalement donc Romain Didier qui va nous appeler, c'est quand même, voilà, aussi un beau moment d'échange. Oui, alors voilà, nous avons donc écouté Dalida, vous l'avez reconnu, avec un arrangement, orchestration très, voilà, très variété, très grand public. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je voulais qu'on entende aussi une voix féminine, parce que ça compte aussi beaucoup, sur un album où Dalida a repris les grands, Brel, Lama, plein d'artistes, et c'est un très bel album. Je voulais qu'on en parle, puisque je disais hors antenne à mon invité Michel Korb que Léo Ferré était très content d'avoir été chanté par Dalida. Alors, nous avons juste avant écouté un titre, Michel, hein, juste avant, mm-hmm. puisqu'on a enchaîné, voilà. Alors, qu'est-ce que c'était ?
C'était L'Orgue de Barbarie.
Eh ben voilà, c'était L'Orgue de Barbarie, co-écrit, alors chanté par Francis Lemarque, et co-écrit avec Jean-André Jacques. Donc Jean-André Jacques, nous avons fait un sujet sur ce coffret, Jukebox Troubadour, et nous avions donc tout à l'heure Frédéric Brun. Voilà, c'est tout cet univers des rencontres, et puis des rencontres qui devaient se faire, finalement. Oui. Parce que quand même, ton père qui rencontre Prévert, qu'il avait connu jeune, dans ce groupe de théâtre amateur, il y avait des théâtres de rue, il y avait des groupes de culture populaire, et il y avait cet idéal de ce que j'appellerais, moi, la noblesse du peuple, qui a aussi, qui se donne le droit à la culture et qui se donne le droit de la propager.
Une certaine idéologie révolutionnaire, d'ailleurs, qui trouve bien sa place dans cette radio. Et à travers des groupes comme le groupe Mars, le groupe Octobre. Francis faisait partie du groupe Mars, qui était le petit frère du groupe Octobre. Et c'est là que Francis a rencontré Prévert.
Une rencontre vraiment, on peut dire, oui, déterminante. Mais avec cet aspect de l'inattendu, quand Prévert prend son téléphone et qu'il appelle Montand directement. Voilà, il y a tout un destin qui se construit, mais il est construit aussi parce qu'il y avait déjà une véritable estime, une véritable amitié très profonde entre ton père, Francis Lemarque, et Jacques Prévert.
C'est vrai. Et puis je pense qu'à l'époque, dans les années 50, dans les années, oui, avant-guerre et après-guerre, juste après-guerre, je pense que les gens se rencontraient peut-être plus facilement. Tu sais, dans le milieu artistique, je pense qu'il y avait beaucoup plus de... Il y avait énormément d'interprètes qui ouvraient leurs portes très facilement aux auteurs-compositeurs comme mon père. Donc les rencontres se faisaient vraiment très naturellement et très facilement. Et ça, c'était une époque, à mon avis, formidable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que mon père l'a vécu et... il a eu toujours cette bonne étoile au-dessus de sa tête pour faire des rencontres déterminantes dans sa vie, et Prévert en était une fondamentale, vraiment très importante.
Alors je vous rappelle que nous écoutons, vous écoutez, nous sommes, nous, dans les studios de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, Radio Libertaire, avec notre émission qui s'appelle « Faites-nous des chansons », c'est tous les jeudis. Et le deuxième jeudi, eh bien, c'est Laurent au micro, avec toujours Ariel à la technique. Et notre invité ici en studio, c'est Michel Korb. Et vous avez entendu deux intervenants par téléphone. On attend bientôt, là, d'ici quelques minutes. On va le faire patienter un petit peu, normalement, Romain Didier. Alors, je suis en train, c'est encore du vrai direct, voilà, nous avons un conducteur, alors Paris se regarde, ben voilà, parce que Michel Korb me tend le papier, l'air de Paris, et Michel et Enzo, Bon, alors on a un disque là, oui. Ah, ça y est. Alors, ça y est, on a un appel. Eh bien, voilà, ça y est, on en parlait. Oui. Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Romain.
Salut Romain.
Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Michel.
Eh ben voilà, voilà, super, pile poil, Romain qui est dans, qui est dans sa Bourgogne, tu vois, tranquille.
Romain, tu as une minute, tu as une minute de retard quand même.
Ça dépend.
tu veux dire que dans ta cambrousse, il est une minute de moins, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est que j'étais à 30 dans mon bureau avec le téléphone, mais je me souvenais plus où j'avais appuyé pour avoir le pour téléphoner. Donc ça a mis les quelques secondes qui... Mais il n'est que 31 pour l'instant à mon téléphone.
C'est ça, non, mais je...
Michel Corbe plaisante, mais alors voilà, alors vous aussi, hein, vous vous connaissez depuis, trentaine d'années, non?
Je ne sais absolument pas quelle est cette personne au
bout du
fil.
Ah bon, on va essayer d'éclairer la lanterne, donc en fait on va éclairer les lanternes respectives, la lanterne de Michel Corbe et la lanterne de Romain Didier. Allez, je vous laisse faire les étincelles, allez, en direct.
Alors bon, donc je m'appelle Michel Corbe et toi, tu t'es... qui es-tu à l'antenne, dis-moi?
Moi, je suis Romain.
Oh, comment tu vas, Romain? Non, Romain, on se connaît depuis très longtemps. Voilà. Donc, on est. C'est comme un grand frère pour moi. C'est surtout quelqu'un qui a été un grand ami de mon père. Voilà. Ils ont été amis dans le travail et amis hors du travail. Et peut-être tu pourras en parler mieux que moi, puisque tu l'as vécu.
J'ai connu, on peut faire rapidement l'historique qui me concerne, moi en tout cas, c'est que j'ai connu Francis parce que les productions de Beko faisaient un album de Francis. Et comme je travaillais déjà un peu à la production de Beko, je ne pouvais pas à l'époque faire les orchestres de cet album, et donc on fait en 77 cet album. Donc j'ai rencontré Francis en 77. Et après, ben, ça a bien passé entre nous. Il m'a fait déménager pour m'apprendre à jouer au bridge sur les bords de Marne. Il m'a jamais appris à jouer au bridge, mais par contre, il a joué beaucoup à la belote. Et puis, c'est arrivé des vacances ensemble, de partir un peu en tournée ensemble. Enfin, j'ai vécu plein de choses magnifiques. De faire un jour les enfants de Francis Lemarque, ça a été pour moi une ouverture, une belle ouverture sur le... Vous êtes un moment depuis que j'arrive à l'antenne, mais voilà, quelqu'un d'absolument exceptionnel. Quoi. Donc, j'ai profité de ça.
Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que... on parlait de la Foudalos, on en parle très souvent de la Foudalos, c'est marrant comme j'ai beaucoup de souvenirs, je ne sais pas si tu te souviens, les moments qu'on a passés là-bas, c'était, moi j'ai vraiment adoré, et je me souviens qu'on se partageait le piano, toi et moi, c'est-à-dire qu'on avait chacun nos horaires pour aller jouer du piano dans la petite pièce qui était en bas.
Oui, je me souviens très bien. Et dans le passage au bac.
Allô, allô. On est coupé.
Oui, il y a des petites coupures. Romain, est-ce que vous bougez un petit peu, non? Ou vous êtes...
J'ai rarement été aussi statique que maintenant.
Ah. Bon, alors continuez, Romain.
C'est peut-être nous qui bougeons, non?
Non, mais j'ai pensé que Romain, il avait le téléphone d'une main et puis l'arrosoir dans l'autre main et qu'il était dans son jardin. Mais voilà, on écoute Romain.
non, je disais que quand on se partageait pas le piano dans la petite pièce en bas de la Foudalos, on était à l'étage du dessus et on jouait au backgammon, tu te souviens?
Oui, absolument, voilà. C'est vrai.
Et je continue toujours à jouer au backgammon.
Bon, écoute, il faudra que je vienne pour me faire battre prochainement. Voilà. Et donc, alors, tu sais que tu as écrit une chanson sur mon papa.
Ouais.
Que j'adore, que je chante même dans mon spectacle, et qui s'appelle Chante-moi Mathilda.
Ouais.
Et bah d'ailleurs, je crois qu'on va la passer.
Elle est prête à diffusion.
Ouais, on la passe.
Eh ben oui, mais pas tout de suite. Là. Ah, vous avez encore des choses à vous dire. Il faut savoir si l'arrosoir de Romain Didier va faire pousser des roses en accéléré. C'est important de le savoir, surtout après 13h35.
Mmh. Bon, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, cette chanson, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, mais donc, tu l'as écrite à la suite de quoi?
Enfin, c'est pas à la suite de quoi, c'est que j'avais l'opportunité de faire un soir à l'Olympia un lundi soir. Voilà, donc on avait loué Jean-Michel Boris, qui dirigeait l'Olympia à l'époque, m'avait mis à disposition l'Olympia pour un soir, un lundi soir, et j'avais décidé d'inviter des gens avec qui je travaillais, des gens pour qui j'avais écrit, des gens. Donc j'avais fait. J'avais demandé à Nicole Croisy de me rejoindre sur scène. J'avais demandé à Fabien Thibault, pour qui j'avais écrit, de plein de choses qui me faisaient. Et j'avais demandé à Francis de venir, mais lui de rester dans la salle.
D'accord.
Et j'avais écrit cette chanson, Chanson Mathilda, en hommage à Francis, et je lui ai fait découvrir en direct le soir à l'Olympia.
Oh, génial.
Et je lui ai, donc, à un moment, donc j'étais seul au piano, c'était un spectacle, je faisais seul au piano, et à un moment je demande à Francis s'il veut bien monter, mais juste avant, j'avais une petite chanson à lui chanter, donc je lui ai chanté la chanson Chanson Mathilda, là il est monté avec des essuie-glaces sur ses lunettes, il est monté sur scène, je lui ai demandé de venir chanter, et c'est cool parce qu'il était manifestement très ému, mais moi aussi.
Ouais.
Et en fait, quand il a pris le micro pour chanter à Paris, que j'accompagnais en ré mineur, comme toujours, et ben, de ce coup, il s'est mis à chanter comme quelqu'un qui est capable de mettre ses émotions de côté et de chanter magnifiquement cette chanson. Moi, ouais, c'était écrit pour lui rendre cet hommage, et ensuite, j'allais l'enregistrer dans un album, le piano public, que j'enregistrais seul au piano. Au théâtre 140 à Bruxelles, et il était venu avec Jimmy assister à la première de ce spectacle à Bruxelles exprès.
D'accord.
Mathilda.
Voilà. Bah, écoute, ouais. Bah, moi j'adore cette chanson et je suis très content de pouvoir l'entendre encore aujourd'hui. Voilà. Donc.
Mais je chante toujours régulièrement.
Pardon?
Je chante souvent, quand je refais un peu le cheptel des chansons, parce que à force d'avancer en âge et en carrière, on finit par avoir beaucoup de chansons. Donc il y a une sorte de turnover. Mais cette chanson-là revient régulièrement.
Oui,
le spectacle précédent, je la chantais à chaque spectacle.
Et tu oublies de dire aussi que tu as un spectacle autour de Francis qui s'appelle La Route.
Qui s'appelle La Route est un long ruban.
La Route est un long ruban.
On peut en parler deux secondes, là?
Bien évidemment.
Ah, alors voilà. Alors, il y a quelque temps, la scène de Porte-les-Valences, qui était une scène, alors je ne sais plus comment on appelle ça, parce qu'à l'État, ils ont toujours, dans les dracs, ils ont toujours des noms à, je ne sais pas, c'est une salle conventionnée chanson, c'est pas une, voilà. En tout cas, où la chanson était l'objet principal de la programmation. Et j'avais déjà souvent fait des créations chez eux, dans ce joli théâtre de Porte-les-Valences. Et là, ils m'ont demandé, et là, c'est comme tout le monde, je disais, mais j'aimerais bien faire un jour une création sur Francis Lemarque. Et donc, je fais cette création. Mon problème, j'avais envie d'emmener Francis, tenter de l'emmener autre part que là où tout le monde fait ça très bien, c'est-à-dire avec l'accordéon, avec la musette et tout ça. J'avais envie de l'emmener. Et donc j'ai demandé à un ami avec qui je travaillais beaucoup et avec qui je continue à travailler beaucoup. Jean-Pierre Niobé s'appelle ça. C'est le nom, et il a un groupe qui porte ce nom-là, il fait plein de projets. Et donc, qui lui est avec un excellent percussionniste, un excellent bassiste et guitariste, et on a fait une sorte de mélange. J'ai écrit pour pouvoir partager la scène moderniser, ça veut rien dire, mais en rendant j'avais l'impression de remettre les chansons, de contribuer à mettre les chansons un peu dans le circuit, voilà, en 2017, quand ça s'est fait. Et voilà, donc changer un peu les rythmiquement et tout ça, et on a pris beaucoup de plaisir. On l'a fait, à Port-Clévalence, et après on l'a rejoué, peut-être 7-8 fois ou une dizaine de fois.
D'accord. Voilà. Donc La route est un long ruban, c'est tiré d'une chanson qui s'appelle Les routiers.
Voilà.
D'accord. Exactement. Bon, bah écoute, c'est bien. Tu continues à être l'ami fidèle que tu as été.
Exactement.
Avec Francis. Et avec nous d'ailleurs, puisque tu continues à être un ami très proche de la famille.
Oui, j'en suis ravi. Bon, c'est vrai que ça fait 50 ans, quoi.
Ben oui, 50 ans. Les amis de 50 ans, c'est bien, tu sais.
Oui, c'est bien. Ouais. Oui,
moi, tu sais que j'ai un ami de la maternelle, donc j'ai un ami de 60 ans.
Ah ben oui.
Qui habite à 500 mètres de chez moi. C'est quand même fou.
Ah, c'est drôle, ça. Ouais. C'est bien. Ouais.
Eh bien, Romain Didier, on est très, très heureux de vous entendre. Bon, vous avez failli être présent dans le studio, mais on vous y attend pour la rentrée, si c'est possible, sur Radio Libertaire, si vous avez une possibilité de venir nous voir à Paris, depuis votre Bourgogne post-natale, en vous souhaitant le meilleur, Romain. Et vous êtes accueilli ici avec vraiment un grand plaisir. Merci à vous, Romain Didier. Et Michel Corbe va vous dire au revoir avec les mots qui vont sonner, les mots d'amitié.
Eh bien, je te dis au revoir avec les mots d'amitié, d'usage.
Moi, je te dis au revoir aussi avec les mêmes mots, avec les mots d'amitié aussi, je t'embrasse très fort.
Merci. Je t'embrasse, à très vite.
T'as le cœur comme une valse à trois temps qui battrait la mesure sans les compter vraiment. T'as le cœur comme une chanson des cours qui gueule ou qui murmure mais qui parle d'amour. C'est peut-être d'avoir chanté Paris qui fait que t'as les bras comme les bras de la Seine. Et si je me sens sur l'île Saint-Louis comme si j'étais chez toi, c'est grâce à tes rengaines. Avec toi Paris y a de la voix, y a pas un bal musette où elle ne chante pas. Avec toi les accordéons ont tous une fossette au milieu du menton. Si t'as chanté plus les faubourgs que les rues de Passy ou celles de l'Opéra, c'est qu'on y parle mieux d'amour et que le cœur de Paris n'est pas là où l'on croit. Chante-moi, Mathilda, fais la valse pour moi. Chacun ses peines, ses blessures anciennes, à chacun sa marjolaine. Chante-moi, Mathilda, fais la valse pour moi. Je vois des étoiles, l'Orphéon qui s'installe, chacun son bal, petit bal. Tu vis entre les bords de Marne, les berges de la Seine et le delta du Nil. Entre deux notes de la gamme, de projecteurs de scène, deux arbres immobiles. Et si partout dans chaque ville, t'as des milliers d'intimes, c'est peut-être que t'es chanteur. Et puis que les enfants de l'exil vous plantent leurs racines en plein milieu du cœur. Chante. Moi, Mathilda, fais la valse pour moi. Chacun ses peines, ses blessures anciennes, à chacun sa marjolaine. Chante-moi, Mathilda, fais la valse pour moi. Je vois des étoiles, l'Orphéon qui s'installe, chacun son bal. Petit bal.
Et oui, Romain Didier, avec cette magnifique chanson.
On sent la manière de l'interpréter que ça lui parle beaucoup et qu'il a envie de transmettre ce sentiment-là. Ça se sent beaucoup, beaucoup. Romain Didier, qui était donc tout à l'heure avec nous, au téléphone, en direct. Trois intervenants aujourd'hui, Benjamin Legrand, Frédéric Brun, Romain Didier. Il y a des jours comme ça où les astres sont bien disposés et on est très heureux d'offrir ça, ces beaux moments à nos auditeurs et à nos auditrices. Radio Libertaire, Laurent avec vous encore jusqu'à 14h, ça passe très vite, il nous reste un petit quart d'heure pour parler de Francis Lemarque, mais aussi de la constellation Francis Lemarque, puisqu'il y a Michel Korb qui poursuit bien sûr un travail personnel, qui chante des chansons mais aussi qui compose, et les trois intervenants que nous avons entendus qui sont aussi toujours dans à la fois le sentiment, le souvenir, et qui nous ont dit les belles connexions qui se sont produites justement avec l'univers de Francis Lemarque. Alors je disais en préparant cette émission à Michel, il y a tellement de choses à dire sur Francis Lemarque qu'un jour, peut-être à la rentrée, si Michel veut revenir, il y a un disque que j'aime beaucoup, c'est l'univers, justement, symphonique de Francis Lemarque, qui a été réalisé par Pierre Porte avec l'orchestre de Radio-Télé Luxembourg, c'était en 1983. J'ai le vinyle, et ici nous pouvons passer des vinyles, on a de la chance, on peut passer des cassettes, des vinyles, on a YouTube, on a tout ce qu'il faut sur Radio Libertaire, peut-être un jour, mais en tout cas, si ça ne se fait pas, si ça n'est pas encore possible avec Michel, pour qu'il revienne nous voir, moi je ferai une séquence sur cet album, parce qu'on l'entend jamais, on ne l'a jamais diffusé depuis 20 ans que cette émission existe, et c'est une manière... Aussi, pas la seule, de rappeler les talents de mélodiste de Francis Lemarque. Oui, oui. Et là, on en a eu la preuve aujourd'hui, pas assez, parce que 2 heures, c'est trop court. Et j'ai proposé à Michel Korb, mon invité, éventuellement, de refaire une deuxième session. Mais mélodiste, ça quand même... c'est formidable, parce que les chansons de Francis Lemarque, ton père... Il y en a tellement qu'on fredonne. On ne se rappelle pas de toutes les paroles, mais on a en nous, on respire avec ces mélodies. Toujours, maintenant. Oui. Ouais, ben encore oui. Aujourd'hui.
Il avait un vrai sens mélodique. C'était le... Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'était le champion de la mélodie à un doigt, tu sais. C'est-à-dire que tu prends avec un seul doigt, tu joues une mélodie sur un piano... Il avait le sens de la mélodie simple et directe, et qui, cette petite musique qui te fredonnait et qui restait dans ta tête longtemps après les avoir entendus.
Alors, ce qui est très intéressant quand on lit quelques articles ou quand on entend les interviews de ton père, Francis Lemarque, il est né donc dans un quartier populaire de Paris, dans le 11e, rue de Lappe, et tout jeune, peut-être enfant, il entendait les airs d'accordéon, il entendait cette musique du peuple, il en a été bercé.
C'est vrai. On peut dire qu'il est tombé dedans quand il était petit, tu vois. Il se considérait d'ailleurs comme un vagabond de la chansonnette, il disait. Un orphelin de la Java. Tu sais qu'il a écrit une chanson qui s'appelle L'orphelin de la Java. Et voilà, il était, c'était vraiment pour lui, c'est comme ça qu'il a fait son éducation musicale, je pense. C'est vraiment dans la rue, dans les bals. Bal petit bal, c'est vraiment une chanson qui exprime vraiment tout ça de façon tellement vraie, tellement directe.
Et ces mélodies ont voyagé à travers le monde, voilà. Il a quand même ses chansons voyagé, alors pas mal, bon, en en Union soviétique déjà aussi, hein, puisqu'il a aussi fait une adaptation qui est restée très très célèbre.
Alors attention, la musique, c'est une mélodie qui s'appelle Les Soirées de Moscou,
oui.
Le temps du Muguet. Mmh. Lui a fait l'adaptation des paroles.
Les paroles, voilà. Mais sur la mélodie de...
Sur la mélodie, voilà. Il a fait une autre chanson qui s'appelle Les Amis Lointains, aussi qui est moins connue, qui est aussi un air russe. Il était très, c'est vrai qu'il s'inspirait beaucoup de la musique populaire russe dans ses chansons.
Ça lui parlait. Ouais. Il a chanté là-bas. Il a chanté.
Il a chanté, oui. Ouais, bien sûr.
Voilà, ouais. Plusieurs fois. Il est allé en Pologne aussi au Festival mondial de la chanson, qui était un des plus grands festivals de chansons, on peut dire en Europe. Hein, c'était très important. Il a été j'ai lu il y a très très longtemps, et ça m'avait assez fasciné, que plusieurs de ses chansons ont été interprétées par des chorales en Tchécoslovaquie.
Ah oui.
Ouais, ça m'avait fasciné. J'ai appris ça il y a je ne sais pas combien de décennies. Et après, évidemment, là en France, il y a eu à Troyes, dans la ville de Troyes, il y a eu ce festival où les chanteurs d'aujourd'hui sont chantés par des chorales.
Mmh.
Alors, quand on est chanté par une chorale, c'est souvent, ça peut être souvent des jeunes, on est quand même, c'est quand même un support, c'est quand même une autre dimension, et je pense que ça a dû lui faire très 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 plaisir de voir ces chansons qui sont, on peut dire, vocalement démultipliées quand même.
C'est vrai.
C'est un grand Mais plaisir. Oui. Michel Corbet avec nous. Il nous reste, on est en train de regarder, on est en train de compter comme Michel comptait avec Romain Didier tout à l'heure. Il nous reste, 7 minutes. Alors on va essayer d'écouter si on peut deux chansons. Ariel, qu'est-ce qu'on a là parce que on a
on a une...
l'air de Paris. Est-ce qu'on a l'air de Paris?
Non, j'ai comme un soldat, mais j'ai aussi la chanson interprétée par Michel, Les Routiers.
Les Routiers, on les a. Bon, il faut qu'on écoute Les Routiers. Parce bon, alors
j'y tiens beaucoup.
Oui.
Ça m'a rappelé un petit souvenir.
Oui.
Quand j'étais jeune.
Bon, alors on va écouter Les Routiers, et pendant qu'on l'écoute, on va faire tout en sorte pour l'enchaîner avec un titre de Michel Corbe, notre invité, qui chante en duo. On va le choisir juste après, on aura le temps. D'abord, Les Routiers, en direct sur Radio Libertaire.
Qui s'appelle Les Routiers. La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier a son volant qui trépide, n'a jamais, jamais le temps de se perdre dans les champs. Le jour se lève et décline sur la route qui chemine. Il doit pousser sa machine, car c'est là qu'est son usine. Ignorant les autres routes qui s'en vont en musardant, le routier n'a jamais le temps de se perdre dans les champs. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton violon. Si tu t'endors au volant, sous l'herbe tendre du printemps, le talus est engageant, mais c'est le fossé qui t'attend. Si tu t'endors au volant, tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps, il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant,
dans ton gros camion hurlant. Le copain dans sa couchette dort au-dessus de ta tête. Si le temps te paraît long, allume une cigarette. Tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, ta route est toujours la même. Pour livrer ton chargement, si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend. Si tu t'endors au volant, sous l'herbe tendre du printemps, le talus est engageant, mais c'est le fossé qui t'attend. Si tu t'endors au volant, c'est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes, loin des villes. Le routier à son volant qui trépide, n'a jamais, jamais le temps de se perdre dans les champs. De se perdre dans les champs. De se perdre dans les champs.
Merci.
Oui. Voilà, Michel, on voulait passer une chanson encore, mais voilà, on s'est dit, on n'a pas le temps. Il nous reste à peine, une minute et demie. Ça a passé beaucoup trop vite, je le répète, faut faire un numéro 2. Michel Corbe, donc l'un des deux fils de Francis Lemar, qui est aussi la petite sœur. J'ai entendu une très jolie anecdote où la petite fille de Francis Lemarc avait chanté une chanson qu'elle avait entendue dans son école, et c'était une chanson de son père.
Ça devait être le petit cordonnier, probablement.
Ah ben, ça doit être ça, oui. J'ai lu ça récemment. C'est un cadeau fabuleux, quoi, pour un papy.
écoute, la petite anecdote, qu'on finira là-dessus, si
ouais,
tu veux.
Ouais.
Donc, cette petite fille s'appelle Ève. Mmh. Donc, c'est la fille du fils de mon frère, en fait, hein.
Oh.
C'est la petite fille de mon frère, donc c'est la fille de la fille de mon frère, d'accord?
Ah, oui, oui.
Du fils de mon frère, pardon, excuse-moi.
Bon, on va y aller.
Je m'en mêle les pinceaux. Et donc cette petite fille est venue me voir en concert et elle a chanté avec moi le petit cordonnier. Elle connaît les paroles, elle connaît toutes les paroles. Donc voilà. Donc j'embrasse Ève et Alice et Jules, qui sont mes neveux et nièces.
Eh ben, on termine comme ça, sur la continuité. Merci Michel Corbe, merci Michel, vraiment c'était un très beau moment, qu'on peut réécouter pendant un an sur Radio Libertaire. C'est facile à trouver, podcast, réécoute. Merci à Ariel qui m'a soufflé cette idée. C'était un souffle de zéphyr que nous avons fait comme un tsunami de joie, en tout cas. Et Gaël est là, déjà dans le studio pour Radio Cartable. Bonjour Gaël et bonjour et au revoir à tous au mois prochain.